Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, nous sommes le dernier week-end du mois de janvier et c'est l'Enduropale. Et oui, la 43e édition de l'Enduropale. Et ouais, ça nous rajeunit pas les gars. Et donc, bien entendu, nous reviendrons tout au long de cette émission sur cette épreuve mythique avec notre spécialiste tout-terrain, Guy. Bonjour Guy.
Bonjour Luc, oui en effet, je reviens du Touquet, enfin c'était vendredi.
Hein. Ah, t'as encore du sable dans les cheveux.
Oui, ouais. Et partout dans les chaussures, partout.
Donc ouais, t'as assisté à l'épreuve vintage le vendredi.
Le vendredi, oui, et cette épreuve se déroule pour la quatrième année.
Ouais, en deux manches, c'est ça?
En deux manches, hein, de 30 minutes. Hein, sur un petit circuit, de 3,9 km. Ouais.
Alors que la grande épreuve fait 13 km.
Hein. Ouais, 12 km et des brouettes, ouais. Donc, je reviendrai là-dessus, sur cette épreuve, voilà.
Voilà, et tu parleras aussi du Paris-Dakar, tu reviendras sur cette épreuve aussi.
Oui, alors on va revenir sur le Dakar, parce que quand même, on avait deux pilotes solo en piste, dont un... Adrien Van Beveren, malheureusement,
s'est blessé. Il s'est perforé un poumon, je crois.
Oui, et pour la bonne nouvelle, je l'ai su vendredi, il revient aujourd'hui en France.
Parce qu'il, d'accord. Il était là-bas, en Argentine.
Il ne pouvait pas prendre l'avion suite à la perforation de son poumon.
Du coup, ça va laisser le champ libre pour des concurrents à l'enduro, là, qui vont pouvoir se bagarrer pour prendre sa place, puisqu'il avait gagné trois fois l'enduro, et donc il va laisser sa place.
Je reviendrai tout à l'heure là-dessus.
Ils sont quand même, notamment Milko Potisek.
Ils sont une dizaine à pouvoir monter sur la première marche du podium.
Ouais. Notamment un Anglais, j'ai entendu dire aussi.
Oui, un Anglais, hein, qu'on en discutera. Je dirai son nom tout à l'heure.
Ok. Donc, mais on va pas parler que tout terrain tout le temps, hein?
Non.
On va aussi parler moto, salon de la moto avec Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour tout le monde.
Donc toi, tu organises un salon de la moto le 4 mars.
Alors,
à Aulnoy-Aymeries, c'est ça?
Un salon peut-être un peu prétentieux parce que on a des nouveautés, mais c'est des vieilles nouveautés en fait. Donc effectivement,
tu parles de moto.
Oui, tout à fait. Donc on aura des vieilles nouveautés, on aura puis des nouveautés tout court quand même, mais pas vraiment des modèles dernier cri. Donc on intitule ça journée moto.
Journée moto en salle, c'est ça?
Journée moto dans une salle, tout à fait. Oui. Alors quand tu dis tu organises, je suis pas tout seul, loin s'en faut. On est à peu près 40 à 50 à être ce jour-là
dans le cadre du motoclub, c'est ça?
Voilà.
Comment il s'appelle le motoclub?
Bacon Club de Mormal, comme la forêt, que beaucoup des auditeurs, je pense, connaissent. Et ceux qui connaissent pas, allez-y, c'est sympa.
Tu es le président, hein, je crois, du club, c'est ça?
Jusqu'à présent, oui.
Et c'est à Aulnoy-Aymeries, le salon.
Voilà, Aulnoy-Aymeries qui se situe à 15 km de Maubeuge. Beaucoup connaissent, je pense, Aulnoy-Aymeries pour y avoir pris le train ou être allé aux Nuits Secrètes. Mais il y a aussi un club moto qui jusqu'à présent, se débrouille pas trop mal. On a fêté nos plus de 30 ans d'existence.
Ah oui, quand même. J'ai vu qu'il y aura Luc Cottrel qui sera présent sur ton salon.
Voilà, Luc nous fait l'honneur d'être là cette année. Et il nous fera l'honneur aussi d'être là certainement la veille au soir. On va, je pense, a priori, c'est bien parti pour. Hein, tout est fait pour que ça se passe comme ça. Sa moto, son bivouac, ses photos seront exposées, une quinzaine de jours, en gros, de mi-février à début mars, à la médiathèque de Noémerie.
D'accord.
Voilà, donc je pourrais.
Comme il avait fait sur Dunkerque.
Voilà, je pourrais en toucher un petit mot parce qu'effectivement, c'est
un événement.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est vrai que j'ai repris un petit peu l'idée, l'initiative que j'avais vue sur Dunkerque. Et j'avais pris un premier contact avec Luc il y a 3 ans, je pense, lors d'un salon moto de la compétition à Comines.
Ouais, tout à fait, on y était. Ouais.
Voilà. Et donc effectivement, moi je suis particulièrement content que Luc soit là et surtout qu'il puisse faire partager et puis que les personnes puissent partager un petit peu son périple. Voilà.
Lors de ta journée moto, il y aura un groupe aussi. Comment tu prononces le nom du groupe?
Mighty Tsar.
Mighty Tsar. Qu'on passera donc tout à l'heure à la radio pour donner un avant-goût de cette musique rock'n'roll.
Rock'n'roll country, rock'n'roll un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu dans le style.
D'accord. Nous parlerons aussi quand même enduro avec notre envoyé spécial, Lamiche, qui était d'abord vendredi, qui était hier et qui est retourné aujourd'hui et qui pourra donc interviewer des pilotes. Normalement, on devrait l'avoir vers 11h45 au téléphone. Et parce que comme le départ aujourd'hui se fait à 13h30, la gauche de l'épreuve mythique. Vous avez largement le temps de nous écouter. Et si vous êtes sur la route, je vous rappelle que vous avez deux relais Calmos, hein, organisés par la FFMC. La FFMC du Nord le fait du côté de Saint-Omer, en face d'un bistrot qui s'appelle Le Touquet, justement, ça tombe bien. Le bled exact, je cherche le nom, c'est Verchoc, voilà, après Saint-Omer. Et l'autre relais Calmos organisé par le Pas-de-Calais se trouve sur la commune de Le Parc, comme d'habitude. Oui, Guy.
Oui, et il faut pas oublier qu'à midi, nous allons avoir Gilou.
Gilou de mes motocross, c'est
voilà,
ça.
Voilà, et qui va nous parler.
Le célèbre site de motocross qu'on retrouve dans le calendrier qui est de Kikinko. Et il va nous parler de l'épreuve.
Du championnat américain. Championnat américain qui se déroule actuellement. Avec le décalage, il doit regarder en direct une épreuve.
Et il va nous parler aussi de Marvin Musquin qui s'est blessé, je crois, c'est ça ?
Qui s'est blessé à l'épaule et qui a pris le départ. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à la dernière épreuve, il a pris le départ, mais il a fini dans les dixièmes, quoi.
D'accord, ok. Et je terminerai ce tour de table par citer à la technique et à la programmation musicale, Monsieur Laurent Rodier.
Merci et bonjour à tous. We'll be right back.
Ça, c'est un deux temps, ça, je le sens, rien qu'à l'odeur d'un 350 RDLC. Vous êtes bien sur Radio Campus, le magazine de la moto, tous les dimanches, de 11h à 12h30, et aujourd'hui, c'est l'Enduropale, et nous avons notre envoyé spécial, Lamiche, en direct au téléphone. Lamiche, es-tu avec nous? Allô, Lamiche? Allô, allô? Bon, bah apparemment, il y a un petit souci, Lamiche, avec son téléphone, il nous rappellera tout à l'heure. Donc, nous allons continuer. Hein, notre ami Guy.
Donc, je continue. On parlait de la quatrième édition de l'Enduro Vintage. Donc, on a même un pilote qui est là.
Attends. On me dit que Lamiche, il est là. Allô, Lamiche. Lamiche. Allô. Tu nous entends?
Il rigole.
Allô, Lamiche. Bon, ben, je crois qu'il a...
Et allô ?
Oui,
allô ?
vas-y, quand tu veux.
Voilà. Oh là là, au secours.
Ça, c'est du direct, hein. Parle dans le micro.
Oui, allô.
Vas-y, l'ami, je parle dans le micro.
Allô.
Vas-y.
Allô.
Allez, s'il met pas le micro à l'oreille, forcément, ça va pas le faire.
Bah oui, je vous entends, moi.
Bah vas-y, ouais, parle. Vas-y. Parle quand tu veux.
Ah. Bah oui, je vous entends.
Eh ben vas-y.
Eh ben parle.
Il est rangé là ou quoi?
Ouais, voilà, on a un décalage, c'est parce qu'on est sur Internet, on a un décalage, donc on va enlever le décalage, on enlève l'Internet, voilà. Enchanté de vous retrouver, effectivement, en direct de l'Enduropale, hein, ici, on est juste à côté du stand du motoclub de Pécancourt, excusez-moi, on n'y est pas encore au salon, hein, c'est dans un mois et demi, voilà, et je suis en compagnie de Julien Tison, Julien qui vient rentrer et qui rentrait mardi du Dakar, en fait, parce que tu es responsable logistique Camor. Bonjour Julien.
Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Lamiche, bonjour tous les internautes. Et oui, je suis rentré mardi soir du Dakar, du périple du Dakar énorme qu'on vient de vivre cette année. Bien sûr, moi, je m'occupe de toute la logistique de chez Yamaha France. Et on a passé vraiment un Dakar énorme, énorme cette année.
Julien, ouais, je te propose, comme on a un nouveau téléphone, un nouveau matériel, on va essayer un nouveau truc, mais on ne sait pas si ça marche. Hein. C'est les gens dans le studio qui nous diront si c'est OK ou pas. Voilà, donc on va faire comme on avait dit avant l'interview, avant de téléphoner. Donc d'abord, je voudrais te poser une question, parce que comme tu es Yamaha, et que Adrien Beuren était sur Yamaha, je voudrais que nous donnes un petit peu des nouvelles de sa santé.
Non mais là ça marche pas bien là. Reparle dans le micro s'il te plaît, c'est grave mieux. Ah Julien. Julien, reparle dans le micro.
Allô la régie.
Non ça va pas du tout là. Amiche.
C'est cette dernière journée du Dakar. Et mais bon après c'est comme ça, ça reste la course. Hein, tant que le drapeau d'Amiens n'est pas franchi, c'est toujours compliqué le Dakar. D'accord, donc on a essayé notre système, apparemment ça ne marche pas, notre technicienne nous dit que c'est pas très bon.
Faut
donc
faire les essais avant. Hein.
On va revenir à la méthode ancienne.
Ouais, voilà,
donc,
c'est très bien.
Beaucoup de questions à te poser, Julien. Donc les blessures, c'est bien une perforation du poumon et aussi, et malheureusement une clavicule aussi.
Oui, tout à fait. Hein. Alors bon, aujourd'hui la clavicule c'est un peu animal, hein, mais bon, c'est sûr que le pire c'est la perforation du poumon, c'est ça qui a fait aussi tarder son retour ici. En France, hein, parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion avec l'altitude. Mais bon, aujourd'hui, il est de retour, il est avec nous.
Il est sur place ici au Touquet.
Ce qui ah, a ça, c'est la surprise, ça c'est le scoop. Hein.
Tout à fait. Alors,
oui, la surprise, Guy Pedersic, il est rentré, mais il est ici au Touquet.
Tout à fait.
Mais on ne sait pas où il est.
Voilà, c'est ça. Alors, personne ne sait où il est.
Il va commenter la course.
Alors, oui, alors il y a eu des paroles de dire ouais, il va commenter la course, il va faire le convoi et tout. Voilà, il y aura des surprises à venir, mais ici, il est ici au Touquet, près de moi, là, pas très loin. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous, on est super contents et ça fait plaisir.
Alors dis-moi, Julien, parce que, bon, hors la blessure physique, mais c'est aussi la blessure morale. Il avait 47 minutes, il avait, sur le deuxième, hein, il avait 47, il était à 3 km de l'arrivée. Il avait pratiquement gagné ce Dakar.
Alors oui, alors le Dakar, c'est sûr qu'il avait pratiquement gagné avec cette étape qui avait fait magnifique, aucune erreur de navigation, rien du tout. C'est vrai que c'était top par rapport à ses concurrents, qu'eux, ils s'étaient trompés et ils avaient fait 40 km de trop et qu'ils devaient revenir. Ça faisait 80 km au total à faire et c'est là que la différence avait été faite par Adrien. Et voilà, aujourd'hui, c'était top, la stratégie était vraiment forte. On lui avait dit, surtout, cette journée-là, il faut vraiment la réussir et chose qu'il avait faite. Alors, Julien, comme tu es responsable logistique Yamaha et que tu es sur le Dakar, pratiquement sur toutes les phases, du début jusqu'à la fin, je voulais te poser une question. Est-ce que, justement, à 3 km, avec 47 minutes d'avance, est-ce qu'on peut pas rendre un petit peu la main? On fait attention quand même.
Ah bah c'est sûr, mais bon, après, aujourd'hui, chaque pilote du Dakar, aussi bien auto, moto, camion et quad, personne n'est au courant de l'avance qu'ils ont. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont aucune greue. Alors, ils ne savent pas, ils savaient pas du tout qu'il y avait 47 minutes d'avance. Sinon, comme tu dis, la miche, il aurait pu peut-être après de lever un peu et puis voilà, tout à fait. Mais bon, après ça reste la course et tout le monde a la même ancienne et aujourd'hui c'est comme ça.
Comment le staff Yamaha a pris la chose?
Ah ben sur le coup on l'a vécu très mal parce qu'on a vu la chute un peu en direct, tout de suite la télévision était avec nous dans le stand et tout, on nous a dit qu'il avait chuté. Bon après on savait pas exactement ce qu'il y avait, on a vu après qu'il voulait remonter sur la moto, mais bon, il est remonté. Malheureusement la tour devant bloquait la direction, alors il ne pouvait pas tourner, alors c'est pour ça qu'après bon il a rechuté tout de suite quelques mètres derrière et puis bon après il y avait le coup qui était fait et voilà.
Et donc est-ce que cette épreuve, pour toi, c'est encore une épreuve mythique, de grande envergure, toi qui t'es pratiquement les deux semaines?
Ah bah tout à fait, hein, le Dakar, ça reste vraiment l'épreuve énorme au monde et c'est la plus compliquée, la plus dure. Ici, on dit l'Enduropal, c'est vraiment une course aussi très dure, c'est la plus grosse course au monde de sable, mais le Dakar, ça reste une étape sur... C'est une course sur deux semaines complètes. Si on n'en acquit pas les deux semaines, malheureusement... C'est très compliqué pour gagner, il faut remplir vraiment tous les critères, il faut que tout le monde soit très bon à toutes les hauteurs, voilà, vraiment.
Alors justement, en parlant de hauteur, avec des épreuves à 4800 mètres, est-ce que tu as été toi aussi à 4800 mètres, comment ça se passe?
Tout à fait, alors c'est sûr que l'altitude aujourd'hui, le Dakar, c'est vraiment la... C'est très très compliqué à gérer, la respiration et tout, on a des maux de tête énormes et tout pour tout le monde, aussi bien les pilotes que tout le staff, toute la logistique entière. Dormir, c'est très compliqué parce que ben voilà, y a presque pas d'oxygène, on respire très mal et c'est sûr que c'est énorme. C'est
donc pour les pilotes, c'est très très fatigant alors.
Très très fatigant parce que non seulement ils roulent en plus, c'est le physique qui a déjà un mal, plus après l'altitude. Bon après, c'est sûr que nous les pilotes sont préparés pour l'altitude, hein, ils s'entraînent déjà en France pour l'altitude, ils dorment dans des tentes spécifiques qui simulent l'altitude et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est une préparation physique énorme, sinon c'est très compliqué.
On entend parler d'un retour en Afrique du Dakar, non? Non.
Alors, on entend, un peu, il y a un peu des paroles, mais bon, je ne pense pas, ça m'étonnerait. Mais par contre, le Dakar va sûrement changer, va partir dans d'autres pays. Il parle de l'Équateur, du Brésil, du Chili. Peut-être l'année prochaine, ça va bouger, ça c'est sûr.
Eh bien, Julien, je me suis remercié pour cette interview. C'était super sympa. Et puis nous, ce qu'on va faire, on va essayer de retrouver Adrien Vermeulen, qui se cache quelque part, on ne sait pas où. Mais, ma foi, avec de la chance, peut-être qu'on va le trouver. À vous! À vous, Radio Campus Lille. I got a certain little girl, she's on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl I've ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad.
I'm not a man.
êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto. Aujourd'hui, on parle enduropale. Nous avons Aurélien qui nous a rejoint dans les studios. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Tu as participé à l'Enduro Vintage vendredi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et tu nous parleras de ton expérience exceptionnelle.
Ouais, ok.
Exceptionnel parce que c'était la première fois qu'il participait à un enduro.
Voilà. Et Kikaku était sur place, dont moi, parce que j'ai quand même 70 ans.
Ah, quand même, non, mais ouais, bravo.
Enfin, j'ai 70 ans.
T'as pas concouru, t'étais pas en moto.
Non, mais j'ai fait des photos, bon, voilà.
T'as bravé le froid et le vent pour notre...
Ouais, pas de vent.
Il a fait correct.
Ouais, hein, d'accord. Un peu de soleil.
C'est plus ce que c'était.
Un peu de soleil, ouais.
Ouais, voilà. Alors, quand même, les organisateurs ont joué, non pas avec le feu, mais avec l'eau, parce qu'il y a deux semaines, il y avait quand même une tempête. Hein, ils ont eu de la chance, quand même.
Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais en même temps, c'est normal qu'on le fasse fin janvier, puisque c'est par rapport à la saison... Voilà. Coup de course sur sable, c'était normal que ça se fasse maintenant, quoi.
Et c'est suivant les marées aussi.
Aussi, hein, ouais, hein. Tout à fait.
Donc c'est la quatrième édition de ce Enduro Vintage sur un circuit de 3,9 km et de deux manches de 30 minutes, entrecoupées d'une demi-heure.
C'est pour des machines d'avant 90, hein, c'est ça?
Entre parenthèses, hein, parce que...
Ouais, parce que finalement, les machines que tu as vues, elles étaient préparées.
Hyper préparées, hein. Il y avait même des machines d'usine, alors.
Ah ouais, d'accord. Bon. Donc effectivement, avec ton même 125
même
de série...
Même s'ils étaient de 90 ou intérieur 90...
C'était des avions de chasse.
Voilà. Alors la première édition en 75 de l'Enduro, il y a eu 286 pilotes. Alors, pendant trois ans, il y avait toujours 286 pilotes inscrits, et cette année, 350.
Bon, pourquoi? Parce que les organisateurs ont permis à plus de gens de s'inscrire, ou parce que c'est devenu un phénomène de mode?
Un phénomène de mode, et puis il y a sûrement plus de demandes. Mais quand on reste sur quelque chose qui a existé, on y reste. Enfin, c'est mon opinion.
En termes d'organisation, tu veux
parce
dire?
Parce que si tu veux, 350 cette année, 500 peut-être l'année prochaine.
Mais pourquoi pas, okay, pourquoi pas.
Oui, mais ça fausse beaucoup de...
Oui, vas-y Lionel.
Je vais le faire l'année prochaine avec ma 125 DTMX.
Tu vas le faire aussi, toi?
Oh, je le sens bien, là.
Ah ouais. Eh ben, tu sais que la Miche va le faire avec son 500 XT.
Oui, déjà plusieurs années qu'il devait le faire.
Ouais, mais non. Et normalement, c'est Xavier Couteau que tu connais, qui est un ancien pilote aussi et qui a déjà fait le vintage d'ailleurs.
Et sur sa CZ.
Voilà, c'est ça. C'était d'ailleurs lui et la machine, c'était les plus vieux de tous les concurrents. Ouais, ils avaient, je sais plus, 120 ans à deux au moins.
Ouais, même plus.
Même
hein.
Plus que ça,
ouais,
voilà.
Même plus.
Et donc, Xavier va entraîner la Miche et Christophe Marquis aussi va participer. C'est celui qui a fait Pice Peak et Bonneville. Donc quand même, là il va y avoir de la préparation, parce que je me tourne vers notre ami Aurélien là, donc qui a participé en 125 MTX R Honda, voilà, c'est ça,
ouais, ouais.
Pourquoi R?
Je sais pas du tout. En fait, c'est le modèle JD05, c'est le modèle débridé, et t'as un cheval de plus, je crois.
Ah ouais, quand même. Tu montes à combien alors? 16 chevaux là?
Oh, même pas, je crois que c'est 12.
Effectivement, dans le sable. Donc il faut être préparé quand même, tu crois, pour faire l'enduro?
Ouais, je pense qu'il faut être préparé, ouais. Ouais, vaut mieux. Moi, je suis pas, me suis pas préparé du tout. En fait, c'est un rêve de gosse que je voulais réaliser. Comme je te disais, je me suis donné les moyens de le faire. J'ai fait des sacrifices et voilà, quoi. Et il n'y a vraiment presque aucun intérêt, sauf pour moi, à le faire, pour réaliser un rêve de gosse. Et puis.
Et donc, ce que tu voulais faire, c'était quoi? C'était
prendre le départ,
c'est ouais. Ça, traverser le centre-ville, ouais, avec tous les pilotes.
En fait,
c'est vrai que c'est impressionnant quand tu les vois passer.
Ouais, franchement, ouais.
Et surtout qu'il a passé devant les fenêtres de notre président.
Ah oui, en plus. Ah ouais. Et t'as vu le président, non?
Non, non.
Il est venu te voir.
Et sa femme non plus.
Non plus. Ouais, non, j'ai vu personne. Non, en fait, je te dis, ça fait 21 ans que j'ai le permis. J'ai que le permis moto. Ça fait 20 ans que je vais au Touquet et j'ai toujours trouvé ça super impressionnant, en fait, de voir les mecs passer, de voir le convoi passer. En fait, t'as l'impression que c'est des gladiateurs qui vont rentrer dans une arène, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais. Ouais. Et en fait, j'aime pas l'enduro, en fait, je trouve ça déjà trop physique à la base. Et donc là, je me suis donné les moyens pour prendre le départ. Juste là-bas, je voulais juste faire le convoi, le passage dans la ville, en fait. Et des potes m'ont demandé si j'avais déjà fait de l'enduro, donc j'ai dit non, j'ai jamais fait de sable. En tout, j'ai fait 9 km avec la moto depuis le mois de septembre, en fait, dans la pelouse derrière chez moi, quoi. J'ai fait ça. Et je me suis dit, pour pas me faire mal, en fait, je voulais juste faire ça. Et après, ce serait au pire que du bonus. Et après, une fois qu'on est sur place, on se prend vite au jeu. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, au vintage qui font ça pour s'amuser, en fait. Pour le délire, c'est beaucoup plus accessible. Les gens sont beaucoup plus tranquilles. Ils rigolent pas mal, quoi.
T'as des frais d'inscription ?
Ouais.
C'est combien ?
En fait, c'est 150 €, les frais d'inscription, en fait. Et après, donc, moi, j'ai pris une licence journalière. C'est 60 €. En fait, je voulais faire juste une manifestation. Je vais pas faire de l'enduro toute l'année, quoi. Donc, et ça m'est revenu à 210 € sans l'achat de la moto.
Donc ça va, c'est relativement accessible quand même, quoi. Même si c'est deux fois une demi-heure.
Et t'as fait combien de kilomètres ou de mètres ?
Donc la moto, j'ai fait 9 km, dont 2 km, c'est le pote qui a préparé la moto, qui a fait des essais. Donc en fait, j'ai fait 7 km. Et sur la piste, en fait, j'ai fait parc fermé, ligne de départ. Donc là, déjà, pour moi, c'était un but. J'avais atteint un but, donc c'était bien. J'ai calé, donc un petit peu de pression ou de stress. J'ai été stressé pendant une semaine. Coup de stress, j'ai réussi à redémarrer. J'ai laissé partir, en fait, les pilotes, quoi, les concurrents, ceux qui voulaient faire du résultat.
Vrais, hein,
ouais, voilà. Je les ai laissés partir et puis j'ai commencé à faire mon petit chemin. Voilà, j'ai réussi à en doubler un. Mon avis, il devait être en panne. Quoi. Je me suis dit après que j'ai roulé sur la plage, j'ai jamais été aussi près de la mer sans avoir les flics derrière. Tu vois?
T'avais le droit, là. Ils étaient là, les flics, mais c'était pour ta sécurité, en fait.
Et en fait, ce qui est con, en fait, t'as les réflexes de motard. Tu sais, tu vois un motard en panne, tu veux que tu t'arrêtes. Et là, j'ai jamais vu autant de motards en panne à côté de moi et je me suis pas arrêté, quoi. Tu vois?
Donc, t'as fait combien de kilomètres
Je sais pas. Premier virage.
D'accord. Voilà. T'es tombé au premier virage ?
Premier virage, enfin, je suis tombé.
T'as fait le all shot, quoi.
Ouais, dans les derniers. En fait, c'est ça.
Donc, t'es remonté sur la moto,
Je suis remonté sur la moto.
T'as réussi à la redémarrer ?
Ouais, en fait, je voulais pas rester là pour pas gêner les pilotes. Tu vois ? J'ai réussi à redémarrer un petit peu, mais la moto. Déjà, moi, j'étais mort. La moto, elle était autant morte que moi. Elle était usée, quoi. En fait, elle n'est pas faite du tout pour ça. Je me suis mis sur le côté. Et puis là, j'ai profité, en fait, de voir la course de l'intérieur.
Du spectacle.
Voilà.
Bah, c'est super impressionnant. Tu avais un pneu sable à l'avant, mais pas à l'arrière. Quoi, c'est
un pneu sable usé à l'avant et un pneu d'enduro usé à l'arrière.
Ouais. Ouais, d'accord, donc pour accrocher dans le sable, c'est pas terrible.
C'est pas top du tout. Ouais.
Tu le referas, tu crois, un jour ?
Ouais, c'est pas dans mes objectifs, en fait. C'était, je voulais faire ça pour le faire.
Voilà, souvent, je l'ai fait, quoi.
Souvent, on se dit pourquoi, et ben, je me dis pourquoi pas, quoi.
Comme il y en a d'autres qui vont au Cap Nord ou aux éléphants, quoi.
Ouais, et pourquoi ?
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, on se dit, pourquoi pas, qu'est-ce que ça coûte ? En fait, j'ai un budget. Au total, ça m'a coûté 1 500 €, quoi, en fait, tout compris. Plus l'amitié des potes qui me rendent service, surtout Virgile, du anciennement le Bado, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Du temps de Ludo. Ouais. Donc, c'est lui qui est venu avec moi, qui m'a emmené partout. Jeudi matin, toute la journée, vendredi.
Et t'as encore du sable dans ta barbichette.
Ouais, encore, mais je la garde, c'est un souvenir.
Faut pas la couper.
Non, en fait, je mets un masque quand je prends ma douche tous les matins pour le garder.
Ok, restez avec nous, on reviendra après sur l'Enduropal. À tout de suite. We'll be right back. J'espère que vous appréciez cette programmation musicale de qualité encore une fois.
Manquerait plus que ça, faut pas déconner, non ?
À qui qu'un coup, t'es tout pas le magazine de la moto.
Alors, Guy, on revient sur cette course que Aurélien...
Vintage, que Aurélien, ouais.
Que Aurélien qui a été dans le parc. Malheureusement, à 99%, c'était des japonaises.
Ouais. T'as beaucoup de KTM ?
Ouais. Oui, quelques KTM. Il y avait une Montesa, c'est une moto espagnole.
Ouais.
Une Portal, c'est une moto française. Et quelques KTM.
Ouais.
Mais sinon, la majorité, c'était...
C'est des japonais, toi.
Mais... Bah, c'est moins cher aussi, hein. Non ?
C'est...
C'est moins cher. Elles sont moins chères.
Ouais.
T'en trouves pour rien, à 120, des 125 d'avant 90.
Ouais, aussi, ouais. Mais par exemple, toutes ces motos bien préparées, certaines motos, parce qu'il y avait quand même, il y avait Arnaud de Mestère, il y avait quand même une moto d'usine.
Ouais, il y avait des belles machines.
Il y avait une Suzuki d'usine. Ouais. Bon, même si elle était de 90, bon.
Je pense qu'ils ont que les cadres de 90. Après les moteurs, c'est.
Ah ouais, non, mais les fourches, etc. Et comme tu disais, au contrôle technique, c'était un peu.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire tout le monde passait, quoi.
Hein, ouais, c'est un passage, en fait.
Ouais, le contrôleur technique, il regardait pas la moto, enfin il regardait si, peut-être il regardait quoi, l'embrayage, les freins,
les cale-pieds s'ils revenaient bien, s'il y avait pas de béquille.
Enfin si, tu devais avoir la béquille, il l'enlevait après.
Béquille amovible,
ouais.
Mais il y en avait, ils avaient leur béquille latérale, elles sont
restées dessus. C'est ça. Ouais. Donc, je prends par exemple, le vainqueur, hein, c'était déjà, il avait gagné l'année passée, c'est Sten Brekelmans, c'est un Belge, mais bon, c'était un double champion du monde en 500 quand même.
Ah ouais, quand même, ouais.
Il y avait quand même 15 Grands Prix, il a gagné quand même 15 Grands Prix. Bon, il y a 38 ans, mais bon, il roule bien. Hein,
38 ans.
Ouais, 38 ans.
Bah, c'est jeune encore.
Ouais, c'est jeune, mais bon, en championnat du monde, c'est trop vieux, quoi.
Ouais. Hein, c'est...
Tous ceux qui m'ont pris de tour, de toute façon, franchement, ils roulent bien, ils roulent vite. Hein. Juste avant que j'arrête.
Mais en même temps, pour sa première participation, Aurélien a été classé. Hein. Combien il a fait ?
330e.
330e, ouais.
Sur
360.
355.
Quand même, hein.
Ouais, sur 360. Enfin, il y a peut-être des pilotes qui sont pas... qui n'ont pas pris le départ, hein, c'est possible.
Ah ouais, il y en a, ouais.
Hein, qui sont...
Trop stressés, ils font gueuler leur machine, et voilà, chacasse. Hein.
Alors, Brekelmans, il avait déjà gagné l'année dernière, hein, faut pas l'oublier, parce que les Belges sont toujours bons dans le sable. Hein, et les pilotes qui se classent deuxième et troisième, c'est deux pilotes de la région, José Pereira, qui, je crois, terminé deuxième l'année dernière, je crois. Mais enfin, il était sur le podium. Et Rudy Verkriet, c'est un pilote qui était venu déjà ici. Alors, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que au bout de la ligne de départ, au premier virage, il n'y avait que des motos vertes. C'est-à-dire, c'est les KX Kawa.
Les Kawa, ouais.
Parce que c'est quand même des avions de chasse, hein, ces motos-là.
Je me souviens, la dernière fois que j'en ai démarré une, je me suis retrouvé avec un retour de kick et un putain de bleu sur le mollet. Mais alors, laisse tomber, quoi.
Il n'y avait pas de démarreur.
Non, il n'y avait pas de démarreur.
Alors,
c'était il y a longtemps, ouais, c'est vrai.
C'est de là qui vient un kick à coup.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça tout
une seule fois.
Hein. Une seule fois.
Voilà. Donc, Steve Brekelmans, il avait une Honda CR deux temps.
Hein, ah ouais.
Deux temps, ouais. Et José Pereira, c'est une Kawasaki, et Rudy Verkriet, une Honda aussi de temps. Il y avait Arnaud de Mestère, la légende du Touquet, cette fois le Touquet. Il a pris le départ, mais il a dû abandonner à l'avant-dernier tour de la première manche. Mais il termine troisième de la deuxième manche, et il finit septième au général. Qu'est-ce que j'allais dire, Aurélien, donc toi, on parlait là juste avant l'ouverture du micro, tu es parti comme ça à l'aveuglette un peu.
Ah ouais, complètement à l'aveuglette, aucune préparation, juste l'envie de réaliser un rêve de gosse, quoi, en fait. Voilà. Ou un caprice d'adolescent, je sais pas. Hein.
T'as eu un souci avec la moto aussi, c'est-à-dire tu l'as retrouvée plus.
Ouais,
c'est ça
ouais.
Raconte-nous un peu ce qui s'est passé.
Donc en fait, j'ai pris le départ, donc premier virage, donc je tombe, je redémarre. Je veux pas gêner les top pilotes en fait. Donc je redémarre, je me mets sur le côté. Puis là, conditions physiques irréprochables, mais à la baisse. Donc je m'arrête, j'en peux plus. On me demande si. Un commissaire de piste me demande si j'arrête la course, donc je dis oui. Il me demande de sortir pour pas gêner. Donc un spectateur m'aide en fait à tirer la moto et je la pose contre la digue. En fait, j'étais tout au bout du premier virage. Quoi. Je la pose contre la digue. Et de là, donc j'attends un petit peu. Et à pied, j'essaye de retrouver mon pote et ma femme et ma sœur. En fait, bah dans le Touquet, j'avais pas de téléphone, rien du tout. Je vais essayer de les rassurer parce qu'ils me voient pas nulle part. J'arrive à les retrouver. Et donc, on était au niveau de l'Aqualude. On était là. Donc, mon pote, Virgile, il me dit, t'as pris le départ. Il dit, écoute, on est là. Il dit, on va aller rechercher la moto. Il m'a demandé si elle tournait. Je dis, je pense, ouais, elle a un petit peu de mal, mais elle tourne, quoi. Il dit, on va aller la rechercher et tu vas reprendre le départ de la deuxième manche. Je dis, bon, bah, ok. Le temps qu'on fasse le retour à pied, qu'on arrive là-bas, on voit partir la moto, la manche venait de se finir, on voit partir la moto sur un camion.
Donc, ils avaient embarqué la mécanique.
Voilà, voilà. Donc on dit c'est pas grave. On retourne à pied au niveau du parc d'assistance pour récupérer la moto. Et là, impossible de récupérer la moto. La moto était bloquée sur le camion de l'autre côté de la plage. Donc j'ai pour récupérer la moto, j'ai dû attendre la fin de la deuxième manche. Donc moi j'avais aucun engagement en fait, j'ai juste à attendre et puis voilà, bah c'est tout quoi. Et j'ai rencontré en fait un pilote qui était là, qui avait abandonné lui aussi lors de la première manche. Il pouvait repartir pour la deuxième manche, mais lui en fait il a pas retrouvé sa moto elle est restée bloquée de l'autre côté, il a pas pu la récupérer pour la deuxième manche et faire sa deuxième manche quoi. Donc ça c'était un peu...
Les motos étaient sur le camion, ils les ont pas descendus alors?
Non, ils les ont descendus quand ils les ont ramenés à la fin de la deuxième manche. En fait, ils ont ramené des lots de motos quoi.
Ils voulaient pas les descendre ou...
Ouais, je sais pas s'ils voulaient pas les descendre ou pas les ramener, mais il y avait pas... On n'arrivait pas à contacter l'organisation pour savoir où était la moto, si on pouvait la récupérer pour la deuxième manche. C'était compliqué.
Ah ouais, c'est bizarre parce ouais, que... Ouais, ouais. Celui-là qui voulait prendre la deuxième manche, ouais. Le départ de deuxième manche, voilà. Il pouvait pas. Quoi.
Bah moi j'étais bon, voilà, j'ai pas pu reprendre le départ de la deuxième manche. Voilà, c'est tout. Mais la personne que j'ai rencontrée, lui, c'était une Honda CR. Et lui était vraiment au bord de la crise de nerfs. Il était vraiment dégoûté, quoi.
D'accord. Et il y avait dans cette course une fille. Une fille qui était sur un DTU mix, je crois, mais elle a fait que 10 mètres. Sa roue, elle a patiné, donc tu l'as battue.
Ah ben bah voilà, c'est bien. Bah moi, ma roue a patiné aussi. Et je crois que cette fille, je l'ai vue dans le parc fermé. Ouais, elle était derrière moi, en fait.
Ah d'accord, ouais une grande...
Ouais, voilà. Et ouais. En fait, derrière, on est beaucoup plus calme. Ouais. Devant, ils sont tous un petit peu énervés. Mais derrière, ça va.
On passe un petit morceau de musique et okay. On parlera de l'enduro.
Oui, voilà.
Tout de suite après.
Ok.
À tout de suite. Ah, ça, ouais, si, c'est toujours, toujours du deux temps. Hein. Il aime bien, Laurent, mettre des bruits de deux temps.
Ouais, bah, c'est sans jeunesse. Parce
que ça n'existera plus bientôt. Moto électrique.
Merci, Christophe. Guy, donc on parlait vintage tout à l'heure.
Oui, et maintenant.
Et maintenant, on va parler, on va laisser la parole à notre ami Lionel, hein, quand même, qui est venu de, t'es venu de où, de Aulnoy-Aymeries, c'est ça?
Ah bah ouais, ton
café. Quand même,
hein, de loin, de
il
loin.
Est venu exprès à la radio pour nous parler de sa journée moto, ouais. Hein, qui se déroule le 4 mars et que vous retrouverez dans le calendrier Kikinkou à la page 18. D'ailleurs, ce calendrier dont tu te souviens, on a fait deux soirées pour annoncer sa sortie, une ouais. à Lezen et une à Béthune au Tattoo Vintage Bar. Et ce calendrier est disponible dans tous les lieux fréquentés par les motards, notamment les concessions, les équipementiers et les bars motards. Il y en aura aussi à Aulnoy-Aymeries.
Bien sûr, j'en ai pris deux fois 50. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis et ils seront disponibles le 4 mars pour ce qui reste, parce que je pense que d'ici ce temps-là, il y en a déjà qui vont, il y en a encore qui vont partir.
Comment s'appelle déjà le club qui organise cette journée?
Le Bacon Club de Mormal.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est la salle des sports de l'ATOC.
Voilà, à Aulnoy-Aymeries. Donc, c'est une grande salle, une salle un peu vintage, c'est le cas de le dire, parce que c'est une salle qui a un certain âge, qui, avec un revêtement de sol qui est plutôt un peu genre pavé. D'ailleurs, je pense que s'il y avait eu un parquet, on l'aurait pas eu pour mettre des motos dedans, ouais, ce qui peut se comprendre en même temps. Voilà. Et donc, ça va être c'est la septième fois, je pense, qu'on le fait. Donc, tout début mars.
C'est à 15 km de Maubeuge, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Une quinzaine de kilomètres de Maubeuge. Bon, d'ici, de Villeneuve-d'Ascq, l'île de la métropole, on est à une heure de route, une bonne heure de route. Ça dépend des conditions, mais voilà, faut compter
ouais,
une heure de route.
Ouais, en plus, au mois de mars, ça va, c'est cool. Il fait bon, on peut rouler, quoi.
Ah, complètement. C'est vrai que on a eu une météo très variable ces dernières années. On a eu parfois un peu de giboulée de neige, parfois un beau soleil, ça dépend. Donc, on verra bien, mais c'est pas grave.
C'est dans une salle. Donc
de toute façon, c'est dans une voilà. salle, effectivement.
Donc on y voit quoi? On y voit des motos anciennes, c'est ça?
Alors on y voit des motos, pas qu'anciennes, des motos un peu récentes, pas forcément les modèles dernier cri, mais on y voit des motos aussi récentes. On y voit aussi des motos transformées, entre guillemets, notamment, normalement on doit encore avoir cette année un stand de handicap moteur solidarité. Donc quand ouais. je dis des motos transformées, c'est-à-dire bah, des motos transformées pour la bonne cause, quoi, des motos adaptées. On y voit aussi des motos transformés, enfin des prototypes, dans le sens où on a aussi quelques férus de mécanique qui sont du cru d'ailleurs, hein, qui sont d'Aulnoy ou des très proches d'environ, et qui nous amènent des machines qu'ils ont faites un peu maison.
Et
qui
et sont des prototypes, des voilà, préparations.
Voilà, tout à fait. Donc c'est un des objets, un des buts de cette journée, c'est aussi de présenter des motos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on va pas forcément croiser sur les routes au quotidien tous les jours. Donc on aura, oui, comme tu le disais, des motos anciennes. On aura normalement un stand du musée Motobécane et des métiers d'antan de Saint-Quentin.
Ah ouais.
Voilà, donc
ils ont délocalisé une partie de leur musée.
Alors, une partie de leur musée, c'est beaucoup dire. Luc, hein, ils vont amener quelques machines, mais visiblement, bon, je pense qu'on aura quelques machines, mais on a aussi en parallèle des particuliers qu'on connaît. On a un réseau qui fait qu'on devrait avoir, la motobécane devrait être particulièrement bien représentée cette année avec des mobilettes, hein, de la Caddie jusqu'aux mobilettes celle biplace, automatique, etc. Enfin, je connais pas tout. Des machines aussi, on a une 500 attelée de 1931 qui va nous être installée, et puis je pense des motobécanes un peu plus récentes. Le musée motobécane s'apprêterait à amener une 350 ou une 500 qui sont des machines qu'on croise pas souvent, la 500 encore moins puisqu'elle est restée à l'état de prototype, elle a pas été commercialisée.
Des 350, il y en a pas eu beaucoup.
Il y en a pas eu des masses non plus.
C'était un 3 cylindres de temps, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc il y aura des machines, aussi des machines d'autres marques, peut-être quelques Terreau, quelques Peugeot ou autres. On m'a parlé aussi d'une ABC Barthélémy avec un cadre Gnomeron, je crois. Enfin, c'est encore Oui, c'est un truc... des machines, des 125 motobécanes qui ont fait un peu de compétition il y a 20 ou 30 ans, donc qui ont été améliorées. Un gars qui va nous amener normalement deux BFG, une BFG Café Racer et une BFG de circuit.
Des motos françaises.
Des motos françaises. Donc oui, c'est important, effectivement, des quelques Solex, a priori.
T'as pas réussi à avoir des Voxans ?
Non. J'ai pas, c'est vrai que j'ai pas essayé d'avoir et j'ai pas réussi à avoir des Voxans. Après, on a aussi il y a la FFMC qui sera représentée. On a quelques stands avec des produits d'entretien, des fringues, équipements motards ou autres.
Ah, il y a une brocante aussi, je crois.
Voilà, une partie brocante. Donc, aux antennes, d'ailleurs, Aurélien, il envisageait de revendre sa 125 MTX-R et puis éventuellement de l'équipement motard. Alors, après, je sais pas où il habite. C'est vrai qu'il peut l'amener. Donc il y a le côté brocante.
C'est gratuit ou c'est payant
Tout est gratuit.
Tout est gratuit.
Alors, quand je dis tout, attention, c'est-à-dire pour les exposants c'est gratuit et pour l'entrée c'est gratuit. La seule chose qui est payante c'est les consommations.
Ouais, quand même.
Voilà, quand même. Voilà.
Et les frites.
Mais j'en profite pour dire un mot parce que il y a des personnes au club qui sont fort dévouées et qui vont fabriquer maison de la soupe à l'oignon, des croque-monsieur, des panini, des crêpes, des gaufres et tout est fait maison, tout est fait main et je les remercie déjà d'avance de leur dévouement et du temps qu'ils vont passer.
C'est un gros boulot d'organiser une journée comme ça quand même.
C'est pas mal de boulot, pas mal de
boulot. Combien vous attendez de public?
Quelques centaines de personnes sur la journée, je pense qu'on tourne entre 500 et 1000 sur la journée, grosso modo, je pense. Enfin, je sais pas comment on fait pas d'entrée payante, je peux pas dire.
Et le groupe, le groupe qui va jouer...
va passer tout de suite après.
Voilà, ouais. Tu dois le payer quand même aussi, j'imagine, c'est pas des bénévoles.
Oui, surtout que c'est un groupe qui a un petit peu de notoriété, entre guillemets, dans son domaine en tout cas.
Comment il s'appelle déjà ?
C'est Mighty Tsar, donc qui passe un petit peu, qui passe dans des festivals, notamment des festivals un peu rock'n'roll ou vintage, que je suis allé voir à deux reprises pour l'instant.
Donc c'est quoi le style ? Plutôt country, rock'n'roll, rockabilly
Rock'n'roll, country. Country, si on veut, plus ou moins. Quoi. C'est pas vraiment country pur, c'est pas vraiment rock'n'roll pur, c'est un mix un petit peu entre les deux. Enfin bon, les auditeurs se feront
une idée.
Et puis à la limite, les auditeurs, vous pouvez aussi aller sur internet, faire Mighty Tsar et puis écouter un petit peu.
Ils passeront à quelle heure
Je pense qu'ils vont faire deux passages ou trois passages dans la journée.
Dans la journée.
Donc en plus, l'avantage, c'est que c'est un groupe un petit peu, on dit acoustique, je crois. À Laurent, notre technicien.
Oui, c'est ça.
Voilà, acoustique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une grosse sono, etc. Et en plus, dans une grande salle comme ça, si on met un bon groupe de hard avec une bonne sono, c'est peut-être pas forcément le lieu et les gens veulent causer. C'est pas forcément adapté. Donc on cherche plutôt quelque chose d'un peu acoustique comme ça.
Familial.
Voilà, après on a un simulateur de conduite qui nous est énormément agréablement prêté avec un intervenant.
Comment ça s'appelle ?
DTTM, Direction départementale des territoires et de la mer, c'est ça ?
Et c'est Monsieur Moto, quoi, c'est ça ?
Ouais, plus ou moins, c'est la prévention routière. Ça plaît bien, des fois, c'est un peu sympa. Voilà. L'année dernière, on avait quelques motos électriques, je ne sais plus qui en parlait, on avait quelques motos électriques, notamment des motos de trial, qui nous venaient du Val-Joly. Où il y avait mais là je sais pas, ils m'ont pas contacté, faut que je les recontacte, voir un petit peu ce qui peut en être.
Donc c'est le 4 mars à Aulnoy-Aymeri, c'est ça ?
C'est le 4 mars à Aulnoy-Aymeri et puis je pense que chez les auditeurs, si un motard a une machine qui sort un peu de l'ordinaire, un peu particulière ou après un peu de brocante, une moto
Je veux vendre des trucs si notre ami Aurélien veut liquider son équipement servi que 500 mètres
Non, il a dit qu'il avait fait un tour de circuit quasiment. Hein, t'exagères. T'es pas sympa avec lui.
C'était pour dire que l'équipement était en très bon état. Parce qu'il avait servi.
En plus, il y en a 25 qui sont quand même arrivés après lui.
En plus, je suis pas tombé vite.
Donc l'équipement n'a pas souffert. Par contre, la moto, je ne dis pas.
Voilà. Et puis, pour revenir au sable, effectivement, Luc qui nous fait l'honneur d'être là.
Oui, Luc Cottrel sera donc avec son expo à la mairie, c'est ça ?
À la médiathèque. Donc, on va exposer.
exposé la moto et les photos pendant 15 jours avant à la médiathèque d'Aulnoy. Le samedi soir, il y aura un petit film qui sera passé dans l'auditorium avec la présence de Luc. Et puis, on fera comme à Dunkerque.
Ah, conférence débat un peu aussi.
Alors, conférence débat, oui. Alors, comment tu causes, toi? Non, après, ça fait une petite collation avec normalement spécialité africaine. J'ai une amie de malienne qui va nous amener un petit peu du bissap et du samosa, je sais plus le nom exactement. D'accord. Enfin, pour être un petit
pour
peu
être dans l'ambiance, quoi.
Dans l'ambiance, voilà.
Ouais, c'est cool. Bon, on va y aller, on va aller faire un tour.
Ah ben, bah, je veux. Vous êtes les bienvenus. Il y a pas de souci.
On va manger du sage.
Oh, Guy, franchement là.
Non, moi je veux faire la danse du ventilateur. Tu connais?
La danse du ventilateur. Oh là là.
On vous en parlera après.
Ouais, je crains le pire. Alors.
Donc on va mettre là le groupe qui va jouer, qui va Mike se produire durant ta journée moto.
À tout de suite. C'est le morceau Vodoman.
Ben, c'est bien sympa comme musique. Donc ça sera le 4 mars à Aulnoy-Moyen.
OK. Tout à fait.
On viendra les écouter et on viendra voir ta journée moto.
Voilà, acheter des bottes à Aurélien et écouter la musique.
Et surtout la danse.
La country.
La country.
Nous avons au téléphone Gilou de Mes Motocross, le site dont on parle dans le calendrier à la page 19. Gilou, t'es avec nous?
Et tiré à 35 000 exemplaires. Hein.
Tout à fait. Gilou, t'es avec nous?
Oui, je suis là. Je vous entends bien.
Très bien.
Bonjour. Donc. Bonjour,
Alors, parce que tu sais qu'au Tibet, il y a des moulins à prière. Ici, on va avoir un moulin à parole là, avec Gilou. Gilou qui...
Faut pas me donner la parole, sinon je t'apprends.
Voilà. Alors Gilou, là, tu viens de regarder le championnat AMA, c'est-à-dire le champion US, ouais. Qui se déroule actuellement, là. Ouais, c'est terminé ou pas ?
C'était la quatrième épreuve, oui.
D'accord. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler du championnat US, parce qu'il se déroule quand même tous les week-ends pendant 15 épreuves, je crois, non ? 17 épreuves.
Ouais.
Donc, interdit de se blesser, interdit de casser.
Et, oui.
Et malheureusement, notre Français, j'ai oublié le nom.
Marvin
Musca, oui. Bien sûr. Et, qui, je pense pas qu'il sera sur le podium cette année.
Tu sais, en fait, le souci qu'il y a, c'est que Marvin, comme tu disais, s'est blessé à la deuxième épreuve. C'est une blessure à l'épaule qui lui a obligé de ralentir sur ses capacités, sur sa préparation. Et bon, qu'est-ce que ça fera dans l'avenir, on ne sait pas trop encore. Le problème, c'est que aujourd'hui, il a l'air d'être pas mal, mais pas très très bien quand même, parce que si on veut jouer le titre, lorsqu'on a fait déjà un ou deux résultats blancs, si tu veux. Pour la saison, il faut absolument être soit gagné, soit dans le top 3, sur le podium, pratiquement sur chaque course, hein, parce que les autres n'attendent pas, évidemment. Et on le voit avec, par exemple, Ilaï Tomac, qui a fait la même chose, hein, c'est-à-dire que Tomac était le grand favori de cette saison, enfin le grand favori. C'est une saison particulière, il faut reconnaître que c'est une saison particulière. Dungy a pris la retraite, tu as Tomac qui est normalement le successeur, mais on a vu qu'il avait des problèmes de concentration, qu'il pouvait avoir quasiment remonté, prendre la tête, et puis finalement faire une erreur, et hop, laisser le titre à Dungy l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Il a du mal à garder sa concentration sur tout le championnat pour remporter le titre, donc c'est encore une incertitude. On a le retour de Roxane, qui est un retour miraculeux, hein, parce que lui c'était gravement l'année dernière, et il revient cette année, mais on voit qu'il a quand même encore des difficultés pour pouvoir jouer la gagne, même s'il est bien aussi. Mais tout ça, c'est des incertitudes. Et puis Marvin. Et Marvin, le problème, c'est que cette blessure, il était dans une spirale extraordinaire, parce qu'il a fini la saison 2017 avec les quatre épreuves qui se déroulent hors saison. Hein, c'était après les championnats. Donc il a fait le Supercross, il a fait la Monster Cup, toutes ces courses-là, il a gagné en France, à Genève et tout. Et hop, il attaque le championnat américain. Tomac est en tête, il chute, il nous fait une Tomac, quoi. Et puis Marvin s'impose. Donc ça continuait sur une bonne dynamique. Et puis arrive le Supercross de Houston, là, donc la seconde épreuve. Et puis t'as Tomac, lui, à nouveau blessé, donc il ne peut courir. Et puis Marvin se blesse en qualif sur les whoops. D'ailleurs, pour moi, c'est son problème, hein, actuellement, Marvin, c'est les whoops. Hein. Autre que la blessure, il perd du temps dans les whoops. Il est, à chaque fois, il a eu des difficultés, même encore aujourd'hui, c'est sur les whoops où il avait le plus de difficultés par rapport à ses adversaires. Je trouve que c'est son point faible là. Et puis cette blessure à l'épaule, alors où est-ce qu'il en est maintenant? Je pense que ça va pas trop mal, mais qu'il n'est pas dans une santé quand même optimale pour pouvoir jouer le titre. Hein. Maintenant, il a beaucoup de points de retard. Et on voit que Tomac est un petit peu donc dans cette même situation. Mais Tomac vient de gagner l'épreuve aujourd'hui.
Aujourd'hui,
oui. Oui, il a gagné l'épreuve de Glendale. Et puis, il avait gagné l'épreuve précédente, un AN2. Donc, ça fait... Voilà. Et lui, Tomac a joué, a brûlé les deux jokers sur les deux premières épreuves. Mais là, il enchaîne avec deux victoires. Donc, c'est la remontada. Et Marvin est dans la même situation, mais le problème, c'est qu'il il est quand même, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même plus difficile. Hein. Il est terminé, je crois, cinquième aujourd'hui de cette épreuve.
Donc, il est à peu près dixième au provisoire, non, dans ces eaux-là, non?
Au provisoire, attends, je n'ai même pas fait le point parce que ça vient de se terminer la course. Au provisoire, je vais te dire ça tout de suite. Attends, il est où, Marvin? Je vais regarder ça là, hop.
Car il était 11e.
Au provisoire, Marvin, il est beaucoup plus loin. Au niveau des points, il doit être dans les 10, je ne sais plus, doit être dans les dixièmes par là.
Ouais, dixième, ouais, dans ces eaux-là.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, il est neuvième, voilà. Neuvième, mais avec. Et d'ailleurs, Thomas qui est juste derrière, dixième. Donc, mais Marvin, tu vois, il a marqué une victoire, 26 points la première course, donc rien à la seconde, et après 10 points et 18 points. C'est-à-dire que sur les deux dernières épreuves, il a marqué 28 points, alors que par exemple, Tomac, qui avait donc, on peut dire, raté les deux premières épreuves, vient de se prendre 2 fois 26, 52 points. Voilà, donc Tomac est lancé vraiment pour pouvoir éventuellement jouer déjà un podium, voire le titre. Je pense qu'il a encore ses chances. Parce que devant, c'est quand même, on a un tiercé. Avant cette épreuve d'aujourd'hui, tu vois, on avait quand même un tiercé qui était assez particulier en tête, parce qu'on avait Anderson devant Colcelli et Justine Barcia. Mmh. Qui est quand même, ça avait une grosse cote, hein, pour parier sur ces trois pilotes. Donc, on va avoir une saison assez pleine de suspense, parce que ce sont quand même des outsiders, si on peut dire. Jason Anderson, il est leader, mais il n'a, pour l'instant, c'était quand même un outsider sur les saisons précédentes. Donc, on va voir s'il peut confirmer. Aujourd'hui, il a eu plus de difficultés. Justine Barcia, lui, c'est pareil, c'est un retour. Il est actuellement second, mais c'est un retour.
Oui, c'est un retour, lui.
Ouais, parce qu'on croyait que ça s'était fini pour Barcia, hein, depuis plusieurs saisons, mais il était plus très loin de son meilleur niveau, donc on se demandait un petit peu ce qui se passait, et cette année, il semble revenir, et puis il a fait une course là à Glendale qui était quand même superbe, hein, parce qu'il était sur les talons de Tomac à la fin, il a dû terminer à 2 ou 3 secondes, donc il était vraiment pour la gagne. Donc le troisième du championnat, c'est Roxen. Bon, là c'est pareil, Roxen revient très bien après sa blessure, mais on sent qu'il a, c'est normal, hein, on sent qu'il pourra, je pense pas qu'il puisse jouer le titre, Roxen, hein, je peux me tromper, mais je pense pas, parce que il y a quand même eu cette saison, outre la blessure, une saison sans compétition quasiment, et quand on revient comme ça, faut retrouver le rythme, faut retrouver la confiance, faut une victoire. S'il arrive à choper sans prendre une, c'est bien, ça pourra faire un déclic, quoi.
En effet, ouais.
Ouais. Alors, pour Marvin, oui,
écoute, parce que là, on va avoir un direct avec le Touquet qui va nous appeler. Oui. Donc, voilà, tu as fait un petit bilan, parce qu'on pourrait en parler de ce championnat pendant plusieurs minutes. Oui. Mais ça sera partie remise, mon cher Gilou.
Il n'y a pas de souci, on se retrouve très prochainement. Et puis, on est quand même derrière Marvin, hein, parce que moi, je suis supporter des pilotes français. Sur tous les championnats, donc on espère toujours un petit plus, et puis espère que la prochaine épreuve, il jouera le podium et peut-être la victoire, quoi, j'espère.
Gilou, tu as eu le calendrier, Guy, tu l'as envoyé le calendrier ?
Mais j'étais vraiment, pour un peu, je versais une larme.
Hein. t'es en photo dedans, t'as un joli chapeau bleu-blanc-rouge en forme de coq, c'est ça hein.
cette photo, elle avait été prise par Pascal Audiqueur. Je crois que c'était à Saint-Jean-d'Angély au Grand Prix de France, alors ça devait être il y a 2 ans, je crois, où notre cher Romain Fèvre avait fait une course exceptionnelle face à Tim Gagère au Grand Prix de France. C'était une course où on était, voilà, on venait de vivre l'arrivée, donc j'étais un petit peu énervé.
Ok, t'es un vrai puits de science, on aura plaisir de te retrouver dans une prochaine émission. À bientôt, Gilou.
Dans 2 semaines.
Hein. À bientôt, dans 2 semaines, à bientôt.
Bonne journée à vous.
Allez,
salut,
ciao.
Gilou.
Ciao. Salut. There's no way to get out. We cross all over to the Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikaku, le magazine de la moto. Et on retrouve notre envoyé spécial, Lamiche, à l'Enduropal. Lamiche, t'es avec nous, là?
Oui, toujours avec vous. Vous m'entendez bien?
Impeccable. Oui, impeccable. Formidable.
Techniquement, c'est parfait.
Magnifique.
Bon, mais ouais, mais ouais. Je suis en compagnie. D'abord, je vais vous donner un scoop. Bon, c'est un petit scoop, mais la course est retardée de 10 minutes.
Non!
Voilà, donc,
chers
amis des studios et chers auditeurs de Radio Campus Lille, de Kikinkout et Toupal, une petite info prioritaire, voilà. un retard technique, un problème certainement sur la plage. Et je suis en compagnie de Xavier Couteau, que vous connaissez. Xavier Couteau qui a participé à un nombre de fois, je veux dire, je lui ai posé la question, il sait même plus, 10, 15, 20 fois, enfin bref. Xavier, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors Xavier, tu es passé de pilote à, comment dire, à coach. Parce que aujourd'hui, tu accompagnes le numéro 744, qui est Guillaume, qui va faire l'enduro d'ici une heure, le départ d'une heure, hein, avec une KTM 300. Guillaume, bonjour.
Bonjour à tous les motards.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà. Guillaume, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es... Alors, je précise aux auditeurs que tu as fait le vintage vendredi, hein, première édition du vintage, et là, c'est ta première édition de l'Enduropal.
Également, oui, oui. C'est, je récupère mon retard. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans que je veux faire l'enduro. Et ça y est, je vais réaliser mon rêve. J'ai réalisé mon rêve ce week-end. Voilà.
Donc, avec un bon coach quand même, au niveau physique, au niveau mécanique aussi.
On peut pas faire l'enduro tout seul. Il faut être entouré. Et là, je suis très bien entouré par un coach mécanicien en même temps. Il fait les deux à la fois. Et c'est parfait. C'est génial.
Là, il y a une différence entre le vintage et l'enduro pas quand même. Hein. Tu sais que c'est pas le même circuit. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein.
Oui, 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 bah la tension monte, là, je suis un peu tendu. Ouais.
Est-ce que tu as donné des conseils à Guillaume?
Énormément, bien sûr. Se placer sur la piste, le départ, savoir où arriver en bout de ligne droite, surtout pas à l'intérieur, et regarder loin devant, 100 ou 150 mètres avant le virage, regarder ce qui se passe, et prendre les extérieurs pour éviter les embouteillages à l'intérieur.
Voilà. Est-ce que tu conseilles à Guillaume de partir tout de suite au taquet dans la masse des pilotes ou de plutôt rester en arrière parce qu'on peut toujours craindre pour les chutes, hein.
Non, bien sûr, je lui ai dit de faire le maximum tout en étant vigilant et de jamais coller le cul d'une autre moto, toujours en décalage et regarder loin devant pour éviter une chute qui arrive souvent dans les lignes droites.
Pour ce premier virage au chat, là, qu'on dit, c'est toujours un peu particulier, ça. Il y a une appréhension. Pour ça, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'enduro pas, là.
Ouais, le all shot, c'est sacré pour beaucoup de pilotes, mais il n'y en a que quelques-uns qui le réalisent tous les ans. Puis il y a la prime de 1000 euros, on en a envie.
Alors, Guillaume, la prime de 1000 euros peut-être pour le all shot?
Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Ouais. Mais dans la ligne droite, c'est vrai qu'il y a des motos qui ne tombent pas, mais qui sont arrêtées. Le moteur serré, et il faut les éviter, même s'ils ne sont pas tombés. Bon, il lève le bras, mais il faut savoir les éviter.
D'accord. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps, cher ami de Radio Campus Lille?
Allez, deux minutes.
Vas-y.
Parce que j'ai encore des questions à poser à Xavier. Xavier, tu as des projets encore, malgré ton... physiquement, tu es encore parfait, hein, tu es un homme mûr, tu vois. Mais l'année prochaine, tu as envie de fêter tes 70 ans au vintage.
Et l'enduro
aussi, oui. Non, Xavier, raconte-nous.
Ce sera certainement la dernière, je veux fêter sans beauté.
À toi aussi, c'est avant de...
Et le frangin a décidé de courir Manu avec moi et tous les copains pour fêter les 70 ans au Touquet l'année prochaine. Avec un team dont tu vas faire partie. Le président de Kikinkous, c'est une révélation, sera au départ de l'enduro l'année prochaine. Du vintage.
Moi, je savais pas que j'allais faire partie du l'année prochaine. Hein. Voilà, je sais maintenant.
Voilà, et puis on sortira une vieille bécane pour faire la surprise, sachant qu'il y a 2 ans, j'avais sorti une CZ Bitube 1964. On essaiera de faire la même surprise l'année prochaine.
Alors, tu es venu au vintage cette année-là, est-ce que tu as vu des machines anciennes qui ont marqué leur temps?
Pas beaucoup. Il y a une Ossa, il y a une Montesa. Il y a pas grand. On se rend compte que les mecs viennent avec des motos relativement récentes, les 4-5 dernières années, c'est-à-dire 85, 86 à 90. C'est un peu regrettable. Et moi, je veux vivre le vintage en réalité et le faire avec une J Bécane, quelle qu'elle soit.
Bien. Donc, ça, c'est rendez-vous pour l'année prochaine. Hein. Et puis Guillaume, bientôt, tu te restes encore un peu de temps. Hein. Donc on répète qu'il y a le décalage de 10 minutes pour la course. Est-ce que tu as été voir le sable un peu? Parce qu'il a plu cette nuit. C'est vrai que la météo a changé. Hein. Autant vendredi, samedi, là c'est beau. Et donc, le sable, il a plu cette nuit et le sable, il est un peu plus lourd.
Oui, moi je me suis entraîné régulièrement à Lune Plage depuis le mois de juillet, donc j'ai testé différents sables, donc j'espère que ça devrait aller normalement.
Et côté ravitaillement, est-ce que tu as ton team? Vous êtes plusieurs, mis à part Xavier aussi, hein, mais pour le ravitaillement?
Oui, on est trois, j'ai trois accompagnants, mon beau-frère, un ami de Pierre, de Xavier, et je l'ai prévu de m'arrêter à chaque tour.
À chaque tour tu t'arrêtes, voyez, parce que pas au niveau d'essence, au niveau de l'essence.
Essence, boisson. Mais heureusement qu'ils étaient là hier au vintage parce qu'ils m'ont réparé une poignée d'embrayage, là tous les deux cassés suite à une chute. Et heureusement qu'ils étaient là.
Bon, très bien. La météo, je répète, hein, c'est un peu gris aujourd'hui. Il pleut pas, c'est un peu humide quand même. Et un petit vent. Et donc les conditions sont pas trop mauvaises quand même pour faire une bonne course et bien s'amuser sur la plage. Guillaume, good luck, bonne chance.
Merci à tous, merci. Merci pour l'interview.
Merci Xavier, vérifie bien qu'il n'y a pas de problème avec Guillaume pour sa première, première édition.
Il n'y a pas de souci, bon dimanche à tous.
Bon, messieurs de Radio Campus Lille, je vous laisse et puis dimanche prochain.
Salut Lamiche, merci de ton intervention. Salut. Musique. We'll be right back. Voilà, vous êtes bien sur Kick un coup, une émission un peu beaucoup consacrée à l'enduropal. On disait hors antenne qu'il y avait 1200 coureurs qui s'étaient inscrits à la course, qui va donc commencer à 13h30 plus 10 minutes, hein, c'est le scoop de la miche, voilà, un petit retard, qui dure 3 heures. Et sur ces 1200 participants, il n'y a que 9 femmes, c'est vrai que c'est pas beaucoup. 14 nationalités quand même, 432 participants qui viennent du Nord et du Pas-de-Calais. Hein, on est bien représenté.
Soit 36%.
Soit 36%, mais quand même. Hein. Ça coûte 1 million d'euros à organiser. Le plus jeune participant s'appelle Alexis Collignon, il a 16 ans. Le plus vieux, c'est Jean-Luc Blaise, il a 65 ans. Et un nom qui te dit quelque chose, Guy, celui qui a le plus participé à l'enduro, c'est Paul Barbara.
Oui.
41 participations.
Sur 42.
Pas mal quand même.
Il faut le faire. Et puis, il termine dans les 15 premiers là, vendredi dans cette course.
Ça conserve le sport hein, quand même.
Ouais. Alors on parlait de la ligne droite, 1000 euros ouais. Au premier au all shot.
Ouais.
Mais au premier de l'enduro, c'est 10 000 euros.
De l'enduro ? Ah oui ?
Ouais,
10 000 euros.
Le vainqueur. Hein.
10 000 euros, bah, c'est pas beaucoup par rapport à la Formule 1.
Non. Non, mais par exemple, Aurélien aurait pu rembourser son équipement.
Non, mais t'inquiète, il va le vendre au salon de Lionel.
Aux enchères. Aux enchères.
Ah oui, bah oui, attention, c'est pas rien.
Alors, vite fait, on parlait aussi. Bon,
du Paris-Dakar.
Dakar, parce que c'est du sable aussi. 40e Dakar qui s'est déroulé en Amérique du Sud, c'est le 10e édition en Amérique du Sud, au Pérou, Bolivie, Argentine, 14 étapes, 139 motos au départ, 54 d'abandon, 85 classés, 9000 km, dont 4500 km de spécial. Et malheureusement, on avait notre
chouchou, notre favori
nordiste, hein, ouais. Adrien Van Beveren,
qui a failli gagner
à quelques. Ouais. À une journée de.
Ouais, même pas, ouais.
À deux jours, parce qu'il y en a une qui était annulée. Donc c'est un Autrichien, Matthias Waltner sur KTM.
Autrichien. Encore KTM qui gagne.
Ouais,
encore,
parce que c'est sûr.
Ça
ouais.
fait des années qu'il gagne Paris-Dakar.
Et deuxième, c'est un Argentin qui voulait gagner ce rallye. Il avait fait quatrième en 2016 En 2017, il s'est blessé. Il est qu'à 16 minutes hein, premier. Ouais.
Benavides.
Benavides, oui. Troisième, c'est un Australien, Toby Price. Et sixième, encore un nordiste, Johnny Aubert, qui est né à Maubeuge. Donc pas loin de Aulnoy-Aymeries.
Tout à fait, Guy.
Hein, sur gaz-gaz, oui.
Sur gaz-gaz, mais c'est un moteur KTM.
Ah ouais.
Ouais. Oui, comme les Huskies, c'est des moteurs KTM.
D'accord. Voilà. Et comme Méo aussi, le français Méo, là, qui sur KTM aussi.
KTM
qui finit,
aussi, ouais.
Quatrième au général.
Quatrième au général. Mmh.
Voilà, bah, j'entends le générique, il est déjà l'heure que ça commence. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Ouais. Donc je voulais faire un remercier Lionel d'être venu d'Aulnoy-Aymeries.
Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Et puis peut-être que vous viendrez aussi le 4 mars.
Pas de problème.
Comme vous l'avez fait l'année dernière. Alors, tu parlais tout à l'heure de 350 RDLC. J'ai oublié de le dire. Normalement, on devrait avoir une belle 350 RD de piste qui sera exposée, qui était déjà l'année dernière. 350 RD de piste, un joli stand Ducati, une petite animation trial avec aussi Laurent, normalement, qui nous vient de la région parisienne et qui fait du trial avec une jambe.
Ah ouais.
Handicap motard solidarité, il est déjà venu un an ou deux. Et quand on sait la difficulté de le faire avec deux, avec une, il a une sympathie, un humour de dingue.
C'est bien, super. Ouais, bon, on viendra, hein, ça a l'air super sympa. Hein. Merci à Aurélien d'être venu témoigner de sa participation, de son rêve de gosse à l'enduro. Hein. Et puis il y a son équipement qui sera donc disponible au salon de la moto.
Voilà, à négocier, à discuter.
Voilà. La semaine prochaine, ça sera le premier dimanche du mois de février. Et donc, ce seront nos amis motards luttants, notamment Christophe de Motomag et la FFMC qui seront présents. Il y aura aussi Daniel Torel du Village Custom Culture. Et il y aura également le président Philippe Payard qui met en place un club Indian Hauts-de-France du côté de Météren. Je vous dis à dimanche prochain. Et merci pour la musique, Laurent, encore une très bonne programmation musicale.
Pas de problème, à votre service. Allez, au revoir.
À dimanche prochain.
Au revoir, bon dimanche.